Radio Okapi.
Présenté par Grace Hamzat, voici le sommaire de ce journal. La rébellion du M23 a massacré plus de 300 civils, dont 19 enfants, dans la province du Nord Kivu, au cours du mois de juillet dernier. Selon Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui le rapporte, il s'agit de l'un des bilans les plus élevés recensés dans ce type d'attaque depuis la résurgence de cette rébellion. Le médecin chef des zones de santé de Moba dans la province du Tanganyika alerte sur les cas de paralysie flasque aiguë dans cette zone. Il annonce que des échantillons sont déjà envoyés à Kinshasa et les résultats sont attendus pour confirmer s'il s'agit des cas de poliomyélite ou pas. Le professeur Monde Godefroy, directeur des laboratoires des pathologies et biotechnologie végétale à l'IFA Yangambi, est l'invité de ce journal. Il parle de sa nouvelle invention du pesticide fabriqué à l'aide des plantes végétales pour mieux protéger les produits champêtres. Bonjour à toutes et à tous. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont tué au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, le mois dernier au Nord Kivu, dans la partie est de la RDC. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le haut fonctionnaire onusien condamne ces violences et appelle les parties au conflit à épargner les civils. Plus de précisions avec vous, Pauli Muzalia.
Il s'agit de l'un des bilans les plus élevés recensés dans ce type d'attaque depuis la résurgence du M23 en 2022, selon ce haut fonctionnaire de l'ONU. Volker Turk révèle qu'au moins 319 civils ont été tués par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les crimes documentés ont été commis entre le 9 et le 21 juillet dernier dans 4 villages du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. La plupart des victimes étaient des agriculteurs locaux qui campaient dans leurs champs pendant la saison des semis. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme condamne également les attaques contre les civils perpétrées par d'autres groupes armés comme la CODECO ou encore les ADF. Ces derniers sont accusés d'avoir massacré au moins une quarantaine de civils chrétiens lors d'une attaque à Komanda en Ituri le 27 juillet dernier. Volker Turk appelle les parties au conflit dans l'est de la RDC à épargner les civils et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.
Et dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, les activités socio-économiques se sont déroulées normalement ce jeudi, en dépit de l'appel à une journée sans activité lancée par les mouvements citoyens et groupes de pression locaux. Ces derniers avaient appelé à une ville morte pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région, les massacres des civils à Komanda en Ituri, ainsi que ce qu'ils qualifient de tracasserie des services étatiques et sécuritaires à travers de nombreuses taxes. Si la situation est restée calme dans le centre-ville, des manifestants ont néanmoins érigé des barricades dans plusieurs quartiers de l'ouest de Beni, notamment à Ngongolio, Boutili, Kasanga et dans d'autres secteurs. Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la ville où le maire circule en compagnie d'éléments de la police pour veiller au bon déroulement des activités. À noter que la veille, le porte-parole des opérations Sokola NDFRDC dans la région de Beni, Boutembo Lubero, a relayé un message du gouverneur du Nord Kivu interdisant toute manifestation dans la ville. Pendant ce temps, à Ituri, 60 miliciens du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP dirigé par Thomas Lubanga se sont rendus mardi aux forces armées congolaises à Tchomia, dans la plaine du lac Albert. Ils ont été transférés le même jour à Bunia, au secteur opérationnel des FARDC. Les autorités militaires appellent les autres combattants encore actifs dans la brousse à rejoindre le processus de paix, faute de quoi ils seront traqués. Isaac Raymond.
Ces miliciens de la CRP ont remis plusieurs armes, munitions et effets militaires aux forces armées. Ils opéraient dans les localités de Nyamamba, Mbogi et Café, à environ 70 km aussi de Bunia, dans les territoires de Djougou. Le porte-parole des FARDC à Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, affirme qu'ils ont été capturés lors des opérations militaires visant à neutraliser ces groupes encore actifs dans la zone. Il appelle les autres membres de la CRP à se rendre volontairement.
Nous appelons les autres à ne pas hésiter de sauver les vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri.
De leur côté, certaines sources locales affirment que ces miliciens se sont rendus de leur propre gré, encouragés par les efforts de sensibilisation des autorités coutumières. Leur édition a été saluée par la population des localités riveraines du lac Albert, souvent cible d'attaques de ces groupes armés. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sujet de la crise sécuritaire dans la partie est du pays, alors que les tractations diplomatiques se multiplient pour résoudre la crise entre la rébellion du M23 et le gouvernement congolais, l'ethnographe et l'anthropologue française Maude Gosselin appelle à plus d'action pour elle, malgré la signature d'un accord de principe entre les parties en conflit à Doha. Le vœu de tous est de voir ces hommes, ces belligérants et leurs alliés se retirer des zones occupées. Elle rappelle que le souhait des populations de ces entités n'est pas d'être prises en étau, mais de retrouver leur liberté afin de reprendre leur destin en main. Maude Gosselin, jointe par Ronéline Tibounira.
La guerre en République démocratique du Congo attriste la communauté internationale depuis des années. Les principes de Doha sont une belle avancée vers la paix et redonnent de l'espérance grâce à la médiation et diplomatie du Qatar. Toutefois, le M23 doit se retirer des villes de Goma et de Bukavu au nord et sud Kivu et laisser les habitants travailler, vivre et prospérer dans la liberté. Les habitants sont traumatisés et les jeunes ont le droit à un avenir sans armes, en Ituri aussi. C'est la raison pour laquelle j'avais édité Jacob Choukourou, jeune enseignant de mathématiques de 24 ans à Bunia, qui a fait des études d'électricité à Goma et dont j'admire énormément le courage. Il a écrit un recueil émouvant, digne et fort, intitulé « L'espoir, notre dernier refuge », dont l'élan de vie universel parlera à tous. Sa prose, tout en poésie, est un témoignage de résilience. Elle pourra aider les habitants de la région des Grands Lacs et plus généralement des personnes qui vivent des épreuves, Urbi et Torbi. Car la guerre au Congo ne blesse pas uniquement les enfants innocents du pays. Elle blesse toutes les âmes qui aiment l'Afrique et son humanité.
On enchaîne avec l'éducation. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2025 s'annonce pour bientôt dans la province de la Tchopo. À l'approche de cette annonce, le commissaire provincial de la police nationale congolaise prend des mesures préventives de sécurité. Le commissaire Elvis Palanga Nawesh interdit toute manifestation publique des lauréats après la publication des résultats. Jacques Mkonkole nous appelle de Kisangani.
L'objectif de cette mesure prise hier par le commissaire provincial de la police est de prévenir contre tout trouble à l'ordre public. Elle vise également et surtout à préserver les vies humaines contre les accidents de circulation, souligne le porte-parole de la PNC Tchopo, le commissaire principal Michel Lubunda.
Le commissaire provincial n'interdisant pas les manifestations, il les invite à fêter en famille pour que les enfants soient protégés contre les accidents de circulation. Et aux motards de ne pas transporter les lauréats sur des motos, sur la voie publique pour ainsi éviter des accidents de circulation.
D'habitude, les lauréats célèbrent leur réussite dans les rues de la ville en utilisant les motos où ils s'asseyent à 4 ou à 5, voire plus, roulant à vive allure sans tenir compte de la réglementation routière. Ce qui a toujours occasionné des accidents, parfois mortels. La police dit ne pas se laisser faire cette fois-ci. Elle va déployer ses éléments sur toute l'étendue de la ville. Les récalcitrants, lauréats et ou motards seront interpellés, souligne le porte-parole de la police. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé, province du Tanganyika, quelques cas de paralysie flasque aiguë sont enregistrés dans les territoires des Moba. C'est confié ce jeudi à Radio Okapi. Le médecin chef des zones de santé des Moba annonce que des échantillons sont déjà envoyés à Kinshasa et les résultats sont attendus pour confirmer s'il s'agit des cas de poliomyélite ou pas. Explication à Lubumbashi, Paul Munanga.
D'après le médecin chef des zones de santé des Moba, la paralysie flasque aiguë peut être provoquée par différentes causes. Docteur Barwin Moma.
Toute atteinte des nerfs, ça peut entraîner cette paralysie-là. Mais il y a aussi les cas de polio, ça entraîne aussi une paralysie flasque. C'est-à-dire, quand il y a un enfant qui marchait, qui ne marchait plus, on est obligé de considérer ces cas. Il y avait les deux enfants qui ont été notifiés à Moba Port. Après l'investigation, on avait constaté que c'était la malnutrition et puis il y a eu retard par rapport au développement psychomoteur. Maintenant, ils avaient confondu ça avec un cas de polio.
Docteur Barwin Moma souligne que des échantillons de cas de paralysie flasque aiguë enregistrés dans la zone de santé de Moba sont prélevés et envoyés au laboratoire à Kinshasa pour confirmer s'il s'agit de la polio. Signalons qu'une séance de récupération des vaccinations contre la polio a été organisée dernièrement dans l'aire de santé de Moba Port pour les enfants de 0 dose et ceux qui n'ont pas été vaccinés lors de la dernière campagne. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Direction le Kassai oriental, un séchoir mobile pour la transformation des maïs en provenance du site agricole d'Nkwadi dans le territoire de Tshilenge est bloqué au gouvernorat des provinces en Mbujimayi depuis bientôt 4 jours. Les autorités provinciales désapprouvent l'affectation de cet engin au profit de la province du Kassai central au détriment du Kassai oriental. Contactez le directeur technique national des bio agrobusiness BAB. L'entreprise qui exploite le site agricole d'Nkwadi affirme que ce séchoir mobile est régulièrement utilisé dans les sites agricoles des 5 provinces où elle mène les activités agricoles. Cintré Mutombo, directeur technique national, s'exprime au micro des externes d'Alafina.
Il ne s'agit pas d'une sortie illicite. Il s'agit d'une sortie régulière du séchoir d'une base agricole du PVA vers une autre base. C'est une activité de routine. Nos bases en province ont démarré les activités sans que on ait terminé l'installation des usines et des séchoirs et même des magasins de stockage. Ça rend difficile la transformation des maïs avant de les couler. Ce même problème se posait à la base de Sakadi dans le Lomami, à la base de Lubondai dans le Kassai central et dans la base de Nkwadi dans le Kassai oriental. Les activités des champs ont précédé l'installation des usines. Comme BAB, c'est l'entreprise de gestion de ce contrat, devant les difficultés de transformer les maïs, BAB avait pris l'option de prendre un petit séchoir mobile pour pouvoir satisfaire toutes les bases, parce que BAB gérait 6 bases agricoles à travers 6 provinces différentes. Et généralement, là où BAB a un stock du maïs destiné à la vente en Mbujimayi, il déplace rapidement les séchoirs mobiles pour les vannages, les soufflages, avant de moudre pour mettre dans les sacs et venir vendre en Mbujimayi.
Un mot de sport. Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. La RDC affronte la Zambie aujourd'hui au stade Kasarani de Nairobi au Kenya dans le cadre de la 2e journée du groupe A. Un match crucial pour les Léopards qui espèrent décrocher une victoire pour renforcer leurs chances de qualification. Ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, les supporters sont partagés. Certains se montrent optimistes, convaincus que l'équipe nationale fera la différence, tandis que d'autres sont sceptiques, pointant du doigt les contre-performances récentes de l'équipe. Suivez ces quelques avis des fans des Léopards recueillis par Josué Kefebe.
Nous sommes très optimistes, mais l'adversaire n'est pas facile. Une équipe comme l'équipe zambienne, je me souviens autrefois, ça n'a pas été facile lorsque les Léopards, à l'époque du Zaïre, rencontraient chaque fois l'équipe nationale zambienne. C'était un duel qui était sans du commun. Donc pour moi, je voudrais réveiller nos joueurs, surtout les joueurs sur le terrain, à ne pas minimiser l'adversaire qui n'est pas moindre.
Les Léopards vont très bien jouer, je pense, parce que nous avons loupé les matchs de la fois dernière à cause de notre faute, je peux dire, parce qu'on avait bien commencé les matchs contre les Kenyans. On était d'ailleurs même favoris. Mais à notre grande surprise, à la fin du match, on était perdants. Mais je pense que nous allons nous rattraper. Nous sommes confiants. Cette fois-ci sera la bonne et nous allons battre la Zambie.
Je serais ravi que l'équipe soit solide et soudée. Je souhaite des bonnes chances à l'équipe puisque nous sommes tous derrière nos Léopards. Mais il faut qu'on essaye d'arranger les erreurs commises lors de la dernière défaite. Cela va nous aider pour cette rencontre contre la Zambie. Il faut faire beaucoup d'efforts pour remporter cette compétition. Avec la manière de jouer de notre équipe, je ne pense pas qu'on ira loin.
Actualité internationale.
L'armée de l'air soudanaise a détruit un avion des Émirats arabes unis convoyant des mercenaires colombiens à son atterrissage dans un aéroport contrôlé par les paramilitaires dans la région de Darfour. Ouest ont rapporté ce mercredi la télévision d'État et une source militaire. L'appareil a été bombardé et complètement détruit lors de son atterrissage à l'aéroport de Niala dans le Darfour Sud. Cet aéroport a récemment été visé à plusieurs reprises par des frappes aériennes de l'armée soudanaise en guerre contre les paramilitaires des forces de soutien rapide depuis avril 2023.
L'invité.
C'est le professeur Monde Godefroy, directeur des laboratoires de phytopathologie et biotechnologie végétale à l'IFA Yangambi. Il s'exprime sur sa nouvelle invention du pesticide fabriqué à l'aide des plantes végétales pour mieux protéger les produits champêtres. Le professeur Monde Godefroy dans cet entretien avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour professeur Monde Godefroy.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler du pesticide à base de plantes végétales que vous venez de mettre en place?
Notre agriculture est butée à des problèmes de bioagresseurs.
qui sont des insectes, de champignons, de bactéries, qui provoquent de dégâts ainsi que de maladies sur les cultures. Et nous, comme scientifiques, nous avons réfléchi. Nous savons que pour lutter contre ces bioagresseurs, généralement on utilise le pesticide de synthèse, qui sont des pesticides chimiques, et ces pesticides laissent beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de risques environnementaux, tant au niveau de la santé humaine, de la santé animale, et même de la santé environnementale. Et nous avons pensé, si dans notre milieu, nous ne pouvions pas trouver de solution locale à ces problèmes. Et voilà pourquoi nous avons exploré notre environnement, nos forêts. Nous sommes allés vers le paysan. On leur a posé des questions s'ils avaient des plantes qu'ils utilisaient pour traiter des maladies, pour traiter des problèmes, tout ça. Et voilà, ils nous ont énuméré autour de 44 plantes autour de Kisangani. Et nous sommes entrés avec eux dans la brousse pour identifier ces plantes des noms vernaculaires. Et ces plantes, lorsque nous avons collecté, nous les avons amenées à l'INERA, Yangambi, à l'herbarium, pour qu'on puisse nous les identifier. Nous avons commencé à faire des extractions. On a formulé des extraits avec de l'eau, qu'on appelle les extraits aqueux. Et nous avons aussi fait l'extraction de huiles essentielles de ces plantes. Et après, nous avons testé. En les testant, on se rend compte que sur le 44 plantes, il n'y a que 16 qui sont très efficaces. Autrement dit, qui donnent un taux de mortalité dépassant 50%, qu'on appelle le DEL50 en termes scientifiques. Voilà, nous avons retenu ces 16 plantes et nous sommes en train de travailler là-dessus et ça nous a permis de produire ce qu'on appelle le biopesticide, donc des pesticides botaniques que nous sommes en train de tester et si une fois homologués, nous allons les mettre à la disposition des agriculteurs pour qu'on ne recoure plus à des pesticides de synthèse qui causent beaucoup de dégâts sur les santé humaines.
Avez-vous déjà expérimenté ces pesticides? Quel est le résultat obtenu?
Nous avons fait l'expérimentation à deux niveaux. Et l'expérimentation laboratoire, directement sur les insectes. Nous avons utilisé les chenilles légionnaires qui attaquent le maïs, que tout le monde connaît. Nous avons utilisé certains charançons qui attaquent le maïs en entrepôt et même qui attaquent le haricot. Et nous avons fait des tests là-dessus. Et les résultats sont intéressants. Ça, c'est au niveau des laboratoires. Nous sommes allés sur terrain pour les appliquer directement sur le maïs, les appliquer sur les cacaoyers, par exemple en termes de psylle qui attaque le cacaoyer. Nous avons vu que les résultats sont aussi intéressants. Donc, pour l'instant, nous essayons un peu de le vulgariser, notamment l'utilisation des extraits aqueux au niveau des agriculteurs pour qu'eux-mêmes, à leur niveau, puissent déjà les fabriquer et puissent les appliquer au niveau de leur champ. Au laboratoire aussi, nous sommes en train d'extraire les huiles essentielles.
Comment faire pour étendre ces produits partout dans les pays? Avez-vous assez de moyens pour ça?
Bon, au niveau gouvernemental, il y a des ambitions. Nous avons suivi le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire qui ambitionne pratiquement créer 500 000 à 1 million d'hectares de cacaoyers. C'est bien bon, mais nous comme scientifiques, nous voyons déjà derrière ça un problème de santé des plantes. Voilà pourquoi nous allons recourir au ministre. Et s'il nous écoute, monsieur le ministre, nous viendrons toquer à votre porte parce que nous voudrions pas que vos ambitions s'écroulent. Parce que quand on aura ces 1 million d'hectares, les insectes vont se réveiller, les maladies vont se réveiller et donc faut pas que ça nous prenne en cours. Nous devons anticiper. Nous avons suivi au niveau du gouvernement, toujours par les truchements du ministère de développement rural, environnement, qu'il y a ces projets-là de Kivu couloir vert. Et dites-vous que lorsque ce couloir vert va être créé, il aura des problèmes de maladies et d'insectes. Et donc, notre expertise, nous allons mettre à disposition de ces projets pour que nous puissions anticiper le problème d'insectes et le problème des maladies pour que réellement, lorsqu'on va ouvrir ce couloir vert, que le pays profite réellement de la production et non des pertes. Comme vous le savez, le peste post-récolte maintenant en RDC, c'est dans les 40%. C'est énorme comme perte. Et donc, si de la récolte jusqu'à la commercialisation, vous perdez déjà 40% de ce que vous avez produit, ça c'est un problème. Et donc, avec le pesticide botanique, on peut protéger en champ, on peut protéger dans les stocks, protéger tout au long des transports. Et donc, nous pensons que notre laboratoire peut aider le gouvernement. Et d'ailleurs, c'est la mission de l'université. Rendre service à la communauté et c'est très intéressant.
Professeur Monde Godefroy, directeur de laboratoire de phytopathologie et biotechnologie végétale à l'IFA Yangambi, je vous dis merci beaucoup.
Notre invité était avec Blaise Shindani Kambala. Par ici s'achève ce Radio Journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa. La coordination assurée par Alain Roumouchinge sous la supervision éditoriale de Thérèse Kankou. Grâce à Mzati, c'était moi à la présentation. Merci.
Copy Sport.
Bonjour chers amis sportifs, bienvenue à ce journal des sports sur Radio Capi à la présentation Kanish Mukongo Fanikizi. Commençons par les chocs décisifs de cet après-midi entre les Léopards Primes de la République démocratique du Congo et les Chipolopolos de la Zambie. Un rendez-vous fixé au Nyayo National Stadium de Nairobi au Kenya dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la phase finale des...